Des grands génies de la musique doivent-ils leur créativité au talent, au travail ou aux éléments? 1994, Albany, dans l'état de New York, Tony Sicoria, chirurgien orthopédique de 42 ans, se dirige vers une cabine téléphonique pour appeler sa maman. Il est alors frappé par la foudre, perte de connaissance. À son réveil, une obsession, le piano. Lui, qui n'avait jamais touché un clavier, compose sa sonate de la foudre qu'il joue en public. On parle de miracle, de génie spontané. Sicoria devient un prodige, un conte de fées électrique. Mais pour celui assis en studio à mes côtés, la musique ne relève pas forcément du destin. Elle se construit à force de patience, d'acharnement, d'écoute et peut-être évidemment d'un soupçon de talent. Bonjour Renaud Létang.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur du son, réalisateur. Vous vous cachez derrière toute une constellation d'albums iconiques, Faith, Manu Chao, Alain Souchon, Catherine ou encore Jane Birkin. Aujourd'hui, vous composez pour vous, sous le pseudo Drift. Vous avez sorti le 6 juin dernier votre tout premier album, et pas vraiment en solo. Hein. On y croise Vladimir Kosma ou encore Chili Gonzalez, un disque tissé d'amitié, d'influences croisées, de grooves doux amers. Un voyage auditif en perspective, un voyage dans le temps, dans vos textures, dans vos sons et dans vos silences, Renaud Létang. Et parce que nous sommes en 2025 et que chaque jour que Dieu fait ou presque, l'intelligence artificielle secoue notre rapport à la création et à l'apprentissage, on a eu envie avec l'équipe du Mac de l'été de vous présenter ce soir Nicolas Aubin. Il est chercheur à l'IRCAM, maître de conférence à Sorbonne Université. Il travaille sur l'intelligence artificielle pensée pour les artistes. Vers 18h33, comme tous les soirs, notre panneau Panorama Culture, au programme un mannequin trop parfait pour être vrai, les Cévennes comme théâtre sous les étoiles, et si vous n'avez pas de passe pour un festival cet été, The Blaze ou Grease s'occupent du dance floor à la maison. Alors servez-vous un cocktail sans alcool, sortez les olives et demandez à vos enfants de faire silence. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Constance Villanova.
Je vais commencer par une question assez simple. Vous avez commencé à travailler à partir des années 90, Renaud Létang, et vous vous lancez en solo aujourd'hui. Pourquoi avoir attendu si longtemps ce passage de l'ombre à la lumière ?
Alors, parce que j'ai eu la chance de commencer ce travail très jeune. Dès l'âge de 18 ans, j'étais en studio professionnel, dans un studio qui s'appelait Guillaume Tell. Et j'ai tout de suite été baigné dans un climat vraiment hyper pro et hyper élevé. Je me suis retrouvé à être assistant sur des albums avec Sting ou Prince ou des gens comme ça. Et du coup, ça m'a rendu très humble. Et du coup, je me suis très vite dit que j'étais peut-être doué pour un certain type de travail et que j'étais là pour aider. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour me sentir pas crédible mais légitime pour pouvoir moi composer de la musique. Donc que ça soit après j'ai côtoyé que des gens vraiment ultra talentueux type je sais pas pour les Français Alain Souchon, Claude Nougaro, des gens comme ça. Du coup ça voilà, il a fallu que je me sente en confiance et que mes proches me légitimisent quelque part.
En confiance mais sous pseudo.
Oui, enfin c'est un pseudo, mais je me cache pas non plus.
Ouais, c'est
pas...
vrai. Ouais. Vous êtes là devant nous d'ailleurs.
C'est ça.
Avant de nous plonger.
Ça c'était, pardon. Pour le pseudo, c'est parce que
Drift.
Voilà, exactement. Si j'ai choisi ce métier, c'est parce que peut-être il y a une raison aussi. C'est que je voulais créer des choses. Je voulais faire partie de la production, de la création, mais j'avais pas forcément par caractère le besoin d'être devant. Et donc, c'est une manière aussi de mettre un peu de distance par rapport à ça.
Avant de rentrer plus dans votre album, on va passer au moment test de l'été. C'est l'interview haute saison. Renaud Létang, ça commence quand l'été pour vous ?
Mi-mai. Hein.
Ah oui, donc c'est très tôt.
Ouais, très très tôt. Ouais.
Est-ce que vous aimez l'été ?
J'aime beaucoup, ouais.
Est-ce que c'est votre saison préférée ?
Je crois que c'est le printemps, en fait.
Elle ressemblait à quoi vos vacances avec vos parents quand vous étiez plus petit ?
Alors j'ai une vie enfant un peu spéciale. J'ai pas été en France jusqu'à mes 12-13 ans. Mm-hmm. Je vivais à l'étranger dans des pays très chauds. Donc l'été pour moi c'est que je revenais en France et j'avais donc des vacances très françaises. Et j'ai passé j'ai passé mes 16 premières années à aller en vacances en Vendée.
Dans le froid, le crachin vendéen.
Non, il fait très beau en Vendée.
Pardon, à tous les Vendées.
Ouais, franchement, non, c'était donc un truc hyper français, hyper rural. entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'Île-Dieu, qui à l'époque était pas une succursale de Paris. Donc c'était, voilà, surtout la Vendée, ouais.
Et votre moment préféré de la journée en été ?
Je dirais qu'il y en a deux quand même. Ben, c'est un peu le, je dirais le matin, tôt, à lever du soleil. Et le 19h30, 20h, quand ça redescend.
L'apéro.
Exactement.
On va parler de votre projet Renaud Létang, mais avant ça, on a eu envie de vous replonger, vous, dans l'été de vos 20 ans, le premier été de liberté. On est en 1990, les garçons mettent du col et les jeans se trouent pour célébrer The Cure ou les petits nouveaux de Nirvana. L'OMS vient de retirer l'homosexualité de son répertoire des maladies mentales, mais il se passe plein d'autres choses. Écoutez.
Écoute, il faut absolument qu'on se tire d'ici. Ce mec, il me rend trop nerveux.
Pourquoi ?
Parce que chaque fois que tu vois un blanc en tôle, c'est qu'il a au moins tué sa mère.
La musique dans la peau. Que ça y est, messieurs bobos. Faut pas vous prendre des biscuits en couillonne. Si toutes les moins au fond, non. Faut attendre vous en chic qui n'y m'adonne.
Pourquoi c'est
jamais ça. Fini l'attente exaspérée devant des cabines encombrées. La solution, un vrai téléphone de poche bien moins coûteux que le radiotéléphone, le Pointel.
Je téléphone avec un appareil, main libre, et je suis à 150 mètres d'une borne qui sert à le faire fonctionner.
C'est pas vrai, ça marche.
Alors, on a entendu le prince de Bel-Air, Zouk Machine, Alain Souchon, et puis il a été question de l'arrivée du téléphone portable. Renaud Létang, vous vous souvenez de l'été de vos 20 ans? Est-ce que vous travailliez déjà à ce moment-là?
Ouais, tout à fait, ouais. Ça faisait 2 ans que j'étais dans le monde du travail. Et c'était une époque où j'avais pas du tout de vacances. Donc j'avais 5 jours, l'été.
Ouais.
En fait, 5 jours dans l'année, pour être clair. Et, la question c'est qu'est-ce que j'ai fait?
Cet été, ouais, cet été.
Corubedo, en Espagne, en Galice. J'ai été rejoindre ma famille, donc, Galice, au-dessus du Portugal, ville de pêcheurs,
et plage, l'été, c'est la
plage
saison,
de 7 km.
C'est la saison des festivals et des concerts, donc vous étiez très occupé, j'imagine.
Oui, surtout, moi, je travaillais déjà en studio, donc juste on avait un rythme infernal.
Avant de reprendre notre interview, on va vous écouter vous. Vous avez une minute, le temps de son intro, pour nous parler de ce morceau At The Party, extrait de votre album. Vous êtes partant ?
Je suis partant.
On lance l'intro. Allez-y, Renaud Létang.
Donc ce morceau, il a surtout un sens par rapport à... Donc c'est At The Party, mais c'est At The Party, quelqu'un qui se sent très seul dans une soirée. Et donc c'était pour parler un peu de tous ces moments où on est entouré de plein de gens, tout le monde a l'air heureux et on est un peu décalé et on se sent très seul et on se sent à côté. Ça pourrait être aussi il y a des soirées peuvent faire ça, mais Noël peut faire ça aussi. C'est des moments mélancoliques où bizarrement la joie et la masse de gens on se sent terriblement seul. Donc ça parle de ça.
Merci Renaud Létang. At The Party, Drift, tout de suite sur France Inter.
I'm at the party. Don't know nobody. Looking for you, it's got to do. I'm just waiting. Waiting for you. Still at the party. Party. I'm on the floor, you walk in the door, looking amazing, like a baby.
How you feel?
I
we
C'était At The Party, le morceau qui ouvre votre album Renaud Létang alias Drift. On a pu entendre Benny Sings Faced, Philippe Catherine, Conan Mocassin et Infinite Bisous.
France Inter, le mag de l'été.
Alors, je vous le disais pendant le morceau, mais votre album, c'est une sorte de BO de l'été, c'est un peu mélancolique. C'est quoi l'ADN de ce disque ? Est-ce que vous aviez une émotion précise en tête en le composant ?
Disons qu'il y avait un... Je voulais qu'il y ait... En fait, j'ai commencé cet album par faire un album instrumental. Donc il était écrit complètement avant que je le donne à mes amis pour qu'ils mettent des voix dessus. Donc il y a eu un long travail de faire des thèmes. C'est pour ça que ça fait BO aussi. C'est que c'est pas vraiment des chansons normales. Mm-hmm. Il y a celle qu'on vient d'écouter, c'est le morceau le plus pop de l'album, je dirais, où il y a des couplets, des refrains. Mais le reste c'est pas comme ça et c'est plus des mélodies qui sont souvent jouées à la guitare. Et les voix répondent à cette mélodie. Donc c'est plus un dialogue entre un album instrumental et les voix sont plus comme l'élément qu'on mettrait pour un solo.
Okay.
Donc souvent la voix c'est la guitare et la guitare intervient comme un élément de surprise et comme un plus. Et après, évidemment, c'était beaucoup mon enfance. J'ai beaucoup vécu. Je suis imprégné du Pacifique.
Oui, vous avez vécu en Indonésie, c'est ça ?
Ouais, en Indonésie et au Venezuela.
Mm-hmm.
Et du coup, j'avais des souvenirs hyper précis, des sens, surtout de sensations. Le Pacifique, ça a une vibe très très particulière. C'est très différent de l'Atlantique. Il y a des énergies différentes. Chaque océan a sa propre énergie. Et cet album, le fond de la vibe, c'est un truc extrêmement pacifique, mais pas dans un truc forcément gay et beau, mais dans un truc mélancolique, chaleur, lenteur, rythme, sweetness, tout ça.
Quand on compose, on fait un album pour soi, est-ce qu'on devient plus indulgent ou plus exigeant ?
C'est une chose très différente. Je suis extrêmement exigeant quand je produis des albums. Et il a fallu que quelqu'un m'aide à avoir du recul par rapport à ce que moi j'écrivais. En fait,
Quelqu'un qui a de la hauteur.
Exactement. J'ai été le papa un peu de tous les artistes avec qui j'ai travaillé, et c'est toujours été moi qui disais c'est bien, c'est pas bien, on va à gauche, on va à droite. Et là, j'avais besoin de quelqu'un qui me renvoie à cette image. Et ils ont été deux très présents. Chili Gonzalez et Infinite Bisous, qui ont été là un peu du début à la fin, mais plus pour confirmer des directions que je prenais, ou pour m'aider à valider des mélodies, parce que il a fallu que je fasse un peu un trajet en accéléré. Je pouvais pas arriver avec un album frais et genre ouais c'est cool, c'est nouveau. À l'âge que j'ai, avec toutes les productions que j'ai fait, il fallait que ça soit déjà un album un peu abouti et mûri. Donc il a fallu que je fasse un trajet artistique en accéléré un peu.
Alors, pour que les auditeurs aient bien en tête votre CV monumental, notre réalisateur DJ en chef, je dirais même, Étienne Bertin, nous a concocté un medley de vos pépites.
La foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel.
J'adore regarder danser les gens.
On a pu entendre Alain Souchon, Manu Chao, Philippe Catherine, Feist, l'impératrice Mickey Green ou encore Chili Gonzalez. Vous l'avez dit, Renaud Létang, vous avez commencé à travailler très jeune dans des studios mythiques, Guillaume Tell puis Ferber. Et vous aviez à peine 20 ans. Au début, vous avez aussi travaillé sur des pubs de lessive. J'ai lu ça,
c'est
plus beaux mots. Vous avez aussi travaillé pour les concerts de Jean-Michel Jarre. Dites-moi.
Non, je vous en prie.
Et il y a eu cette rencontre en 1993 avec un certain Alain Souchon. Et cette rencontre, elle s'est pas très bien passée au départ.
Ouais, exactement. En fait, j'ai passé 3 ans au studio Guillaume Tell en apprentissage. En fait, vraiment, c'était comme une école hyper intensive à faire des gros projets. Ça m'a permis d'apprendre énormément. J'ai passé du temps avec un producteur américain qui s'appelle Phil Ramone, qui m'a donné beaucoup de toutes ses connaissances et de toute l'expérience qu'il avait pu avoir au fil des années. Et ensuite, je suis devenu indépendant, très jeune, à 21 ans, et c'est là que j'ai fait de la pub. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de pubs homo.
La lessive. Avec le chimpanzé.
Exactement, avec la chimpanzé. Et je faisais vraiment, comme j'étais jeune ingénieur, j'ai fait aussi la musclada, c'est-à-dire la lambada.
Ah,
mais version musclée.
Je vais écouter ça.
Ouais, je crois que
à mettre dans notre playlist pour l'été.
Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Et donc, j'ai travaillé, je faisais des pubs, donc. Et il y a une semaine en particulier où j'ai travaillé avec le même arrangeur sur, pendant toute une semaine. Et le premier jour, on a fait une musique pour Massive Attack. Genre Massive Attack. Okay. Le deuxième jour, on a fait des cordes. C'était une pub pour Renault. Alors, 40 cordes, un truc genre Robert Palmer ou je sais plus quoi. Le troisième, c'était de la vielle, je me souviens. Et le quatrième, je sais plus ce que c'était. Et c'était avec un arrangeur qui s'appelle Michel Curiot. Mm-hmm. Et à la fin de la semaine, il m'a dit écoute Renault, voilà, on a fait plein de styles musicaux, tu te débrouilles bien, je te ferais bien essayer. Est-ce que ça te dirait d'enregistrer et de mixer le prochain album d'Alain Souchon? Donc moi, j'avais 22 ans. Donc j'étais genre, ok, hyper évidemment ravi, mais complètement terrorisé. Et donc rendez-vous au studio Ferber, que je connaissais pas non plus, le premier jour, avec Michel Curiot et Alain qui arrivent. Et je me rappelle, il me regarde et il me dit « Il est où l'ingénieur ?» Je dis « C'est moi ». Et je le vois partir un peu en furie. Il va voir Michel et il dit « C'est pas possible, je peux pas travailler avec mon fils, c'est pas possible. » Donc, il a fallu que je montre que je me débrouillais bien. Il a fallu que je sois capable d'avoir une discussion... avec une discussion à peu près normale, et puis au fur et à mesure des jours ça s'est super bien passé. Et après j'ai fait presque 10 albums avec lui, je sais pas plus combien, mais peut-être 8 ou 7, enfin c'est 25 ans d'albums avec Alain. C'est comme
donc ça s'est bien fini,
mais hyper bien, sinon j'en aurais pas fait autant. Après on a enchaîné avec l'album avec Le Baiser et tout ça. Donc, et puis après, ça a continué, je vous dis, pendant 25 ans. Et c'est un peu comme, il m'a appris énormément de choses par rapport à comment se comporter dans ce métier, quoi faire attention à quoi, être vigilant sur quoi et tout ça. Il a vraiment eu un rôle d'oncle, de tonton, je dirais.
Avant de passer à notre fameux panorama de la culture, on écoute Joy Crooks pour vous nous livrer la recette du crime parfait.
Late night, no smoke, pistols at dawn. Last time the bullet hit before my gun was drawn. You stripped my guard down, man, I can't believe. God forbid I choose my wants over my needs, but I wanna tear into another love. I wanna dare myself to crash into. You don't even know me, do ya? I'm a killer, I'm a killer, I'm a killer. Bang, bang on fingers in the mirror. I won't get caught this time. Commit the perfect crime. I'm a killer, I'm a killer, I'm a killer. Bang, bang on fingers in the mirror. I won't get caught this time. Commit the perfect crime. I'm gonna mix love into sex. For no side effects, I pour myself into you. Still keep a glass of me too. I get away with it, I get away with it. They'll be talking about me after I die.
Perfect Crime, le nouveau single de la Britannique Joy Crooks, qui a annoncé un album pour le 26 septembre, Juniper, traduction genévrier.
Le mag de l'été. Constance Villanova sur France Inter.
Tous les jours à 18h35, le mag de l'été passe en mode vigiculturel, c'est le panorama.
Panneau,
oui.
Obé. Non, c'est panneau.
C'est un défi défilé réglo. On suit les codes de la vieille école. Le premier modèle fait son passage, le second modèle le copie, puis ajoute sa touche perso. Bien, alors les mecs, c'est quand vous voulez.
Tu as le privilège de l'âge, vieille pique. Comme tu voudras.
On y va.
silhouette sablier, pommettes rehaussées, bouche pulpeuse et chevelure blonde. Non, je ne me décris pas moi-même, mais cette jeune femme que l'on découvre dans le dernier numéro du magazine Vogue France, problème, elle n'existe pas. C'est un mannequin entièrement généré par intelligence artificielle pour une pub de la marque Guess. Un minuscule encart l'indique, trop tard, polémique. Le magazine assure que ça ne reflète pas sa ligne éditoriale, mais les internautes s'inquiètent de l'impact de ces publicités 2.0 sur la santé mentale des plus jeunes, de plus en plus en proie aux troubles du comportement alimentaire, on le sait. Déjà que les corps retouchés nous complexaient, alors les corps inventés... C'est l'événement culturel du jour. Jusqu'au 14 août, les Cévennes deviennent une scène à ciel ouvert pour deux pièces puissantes. La Nuit des Camisards et sa suite, Élise, la colère de Dieu, écrite par Lionel Astier et mise en scène par Gilbert Rouvière. Elles font revivre l'insurrection protestante de 1702 tout en interrogeant les violences d'aujourd'hui. Entre fanatisme, résistance et mémoire des femmes oubliées, ces spectacles en itinérance mêlent fiction et histoire au cœur de forêts et lieux insolites entre chiens et loups. Ce soir, rendez-vous au château de Rousson à 21h45. Retrouvez toutes les informations sur le site du théâtre Cratère à Alès. Chaussures de marche, lampes torches et vêtements chauds hautement conseillés.
Les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis.
Les marins font de mauvais maris,
mais les marins font de bons amants.
Marins, amis, amants, les marins sont toujours absents.
Pour égayer votre mois d'août, sortez les chaussures plates et préparez-vous à chanter à tue-tête. Les plateformes ressortent, les comédies musicales cultes. Télérama recommande un joli bouquet chorégraphié, Grease et The Rocky Horror Picture Show sur Disney+, Les Demoiselles de Rochefort sur France TV, Les Chansons d'Amour et West Side Story sur Prime Video et Le Magicien d'Oz sur HBO. De quoi transformer votre salon en piste de danse.
Comme beaucoup de studios parisiens de l'époque, c'était une cave aménagée, des caves aménagées, plutôt pas mal, mais sans lumière du jour, et avec tout le côté extrêmement attirant des studios d'enregistrement de l'époque, c'est-à-dire un truc cosy, assez sombre, dans lequel on ne peut pas mesurer le temps qui passe parce qu'il n'y a pas justement de lumière extérieure, et il était un peu... attirant et en même temps un peu fantomatique parce qu'il avait quand même déjà un passé assez long. Puis surtout ce côté, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps à mesurer.
On vient d'entendre Dominique Blanc-Francard parler du mythique studio Labomatic créé dans les années 90 dans des caves du 18e arrondissement de Paris. Vous, Renaud Létan, vous êtes team studio Ferber depuis plus de 30 ans, fameux studio dans le 20e arrondissement. Qu'est-ce qu'il a, ce studio, que les autres n'ont pas ?
Donc, effectivement, j'ai choisi ce studio pour mixer tout ce que j'ai fait depuis 80, à peu près 95, 96. C'est l'acoustique est incroyable. En fait, c'est un studio des années 70. Et les studios qui sont restés dans le monde et qui restent ouverts sont que des studios qui datent de cette époque. Donc, c'est... Il a la même chose que des studios mythiques de Los Angeles ou que d'autres dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est que des studios qui correspondent à ces années de construction. Et parce que l'acoustique, on n'a jamais fait mieux depuis. Et donc, c'est en grande partie pour cette raison que j'ai tout de suite adoré ce studio.
J'ai une petite question lexicale. Vous vous dites réalisateur et non producteur.
Oui, en fait, c'est parce que en anglais, producer, c'est réalisateur.
D'accord.
Et executive producer, c'est le producteur en français. Donc c'est.
Comment vous pouvez expliquer votre travail en fait ? En quoi ça consiste avec les artistes ?
C'est extrêmement simple. On peut faire une analogie avec le réalisateur de film.
Oui.
Donc c'est exactement la même chose en fait. On a une histoire, c'est les chansons. On a des acteurs, c'est le chanteur, la chanteuse, les instruments, les musiciens. Et il faut créer une espèce de... Il faut créer une image, il faut créer un décor, il faut que l'histoire soit lisible. Il faut... Donc, c'est la responsabilité artistique de A à Z pour être sûr que le projet ait abouti et bien géré à chaque étape, en fait. Donc c'est exactement pareil qu'un réalisateur. Et c'est la même chose que pour un réalisateur de film. On peut pas être que producteur, on peut pas être que réalisateur, en fait. On est réalisateur parce qu'on excelle dans un des domaines. Donc un réalisateur de film, où il va être scénariste, où il va être cadreur, où il va, parce qu'à un moment, il faut qu'on puisse agir sur le projet et montrer aux gens, non, c'est pas par là, c'est par là. Et pour pouvoir le faire, il faut pouvoir agir à un endroit. Et donc, c'est un métier qu'on rajoute à des compétences. Pour les réalisateurs de disques, il y a deux options. C'est ou des arrangeurs ou des mixeurs. Pourquoi ? Parce que en mixant, on termine un projet et on peut l'aboutir. Parce que s'il n'est pas exactement bien ficelé, en mixant, on peut bien le ficeler. Et c'est pareil pour un arrangeur. En changeant l'arrangement, il peut aboutir son projet. Donc voilà, et c'est la même chose pour un réalisateur. Si on n'a pas en capacité de changer une scène qui ne va pas, eh ben le scénariste, celui qui est scénariste, il va juste changer les phrases, il va dire non, ça va être mieux comme ça. Et celui qui est cadreur, il va juste changer ce que raconte l'image.
Vous avez parlé de votre rencontre avec Souchon, qui était un peu une rencontre, pas due au hasard, mais fortuite. Il y a des artistes qui reviennent vous voir. Aujourd'hui, comment vous choisissez les artistes avec qui vous collaborez? Par exemple, je suis une jeune artiste, qu'est-ce que vous allez regarder? Qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir réaliser mon album, mon EP?
Ben, y a, en fait, j'écoute à peu près tout ce qu'on m'envoie. Je fais beaucoup de premiers albums. Ça m'embête, j'adore faire des débuts de carrière, en fait, parce que c'est là que tout se crée. On doit synthétiser la personnalité de la personne. Là, souvent les gens sont jeunes, donc ils comprennent pas vraiment qui ils sont, donc on a quand même une responsabilité là-dedans, c'est de l'emmener là où il sera dans 5 ans un peu. Si vous comprenez ce que je veux dire.
Il y a un jeune artiste avec qui vous avez collaboré, qui vous a profondément marqué, par exemple, que vous avez lancé avec des grands guillemets.
Ben oui, enfin il y en a eu plein. Chili Gonzalez, Feist, Manu Chao, quelque part, c'était son premier album sous son nom, et c'était autre chose, donc c'était aussi un premier.
C'était un carton, et c'est
voilà. Donc la sélection, c'est déjà que je vois un potentiel dans la personne, mais c'est pas forcément un potentiel technique. Si la personne chante pas bien, mais qu'elle a une émotion incroyable ou qu'elle écrit super, ça va m'intéresser. Je cherche pas du tout la perfection, je cherche le potentiel que je peux en faire. Et la plupart du temps, quand je choisis quelque chose, c'est parce que je l'entends déjà fini dans ma tête. C'est-à-dire, j'écoute la maquette et j'entends la projection.
Donc, faut anticiper.
Et complètement, ouais.
Aujourd'hui, les algorithmes poussent à formater la musique. Je pense à TikTok, qui devient l'un des principaux vecteurs de tubes chez les nouvelles générations. Vous qui vous distinguez, enfin, vous avez quand même un CV très éclectique. Comment vous observez cette nouvelle fabrication des tubes, des morceaux qui marchent aujourd'hui? Il y en a énormément qui sortent. TikTok devient une sorte de playlist obligatoire. Comment vous regardez ça?
Ben, en fait, plus on essaye de faire un tube, et moins on y arrive. À part si c'est de la musique.
Même aujourd'hui.
Mais oui, parce que ça peut pas être. Ben, enfin, il y a plusieurs types de tubes. Il y a des tubes mainstream qui sont presque de la chanson générique. C'est une copie, c'est une photocopie, ouais, du tube d'avant. Et il y a un truc, c'est facile à écouter, tout le monde l'écoute. Mais faire quelque chose qui reste sur 30 ans, sur 100 ans, sur 50 ans, et qui est vraiment un tube, eh ben ça, on peut pas le forcer. On doit faire du mieux qu'on peut, et ça devient ce que ça devient. Par exemple, je vais vous donner un exemple, Philippe Catherine, et je coupe le son et je remets le son. On ne pensait pas que ça deviendrait quelque chose d'aussi culturel. Quand j'ai fait Clandestino, je pensais pas que ça allait marcher autant. Je pensais pas que ça allait marcher autant. Et pourtant, c'est sur TikTok pour le coup. Encore aujourd'hui, on a été numéro 1 pendant 3 mois l'an dernier avec Me Gustas Tu en version speed up. Enfin, ça a aucun sens.
En accéléré. Et voilà. Nos auditeurs.
Et je pense que la bêtise, c'est d'essayer de faire comme le voisin ou d'essayer de faire un tube. Ça ne marche pas. On fait du mieux qu'on peut et ça devient ce que ça devient.
On va continuer de parler de créativité, justement, et on va contourner les clichés en se demandant comment l'intelligence artificielle peut être un outil aujourd'hui pour les musiciens. On va être rejoint par Nicolas Aubin, chercheur à l'IRCAM et maître de conférence à Sorbonne Université. Il explore l'intelligence artificielle comme outil de création sonore. Il travaille sur la modulation de la voix. Mais d'abord, il paraît que ce sera son dernier album à Londres. On en profite, c'est Damso qui m'a demandé sur France Inter.
Thank you. Moi j'ai du mal à parler, j'ai tellement serré les dents. J'ai vécu des choses atroces, je connais la douleur des gens. Je cherche la paix un peu partout, guidé par le vent. Pour savoir comment aimer, j'ai demandé aux religions. Elles m'ont dit tu connais rien à la souffrance, celle que le temps ne guérit pas. Quand l'âme est blessée sur chemin, ça laisse des traces depuis l'enfance. Et la mémoire n'a que le choix d'y repenser, repenser, repenser. Moi je comprends pas pourquoi je suis né, je suis dans le bleu. Pourquoi mon daron a-t-il craché dans le trou? Il fallait savoir déjà est-ce que vous l'aimez. Vous cette vie énorme qui m'a demandé ma permission de venir au monde. Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. La vie de rêve, la vie de Tony, Tony, Tony. Pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. Hey. La vie de rêve, la vie de Tony Braxton. Les mauvais choix font que je déconne. Son bras petit feu, le désespoir résonne. Tant d'innocents, tant d'innocents payent pour que l'Occident règne sur les consciences saines, puis de confiance. Les conséquences de la méfiance saine, les cœurs mis en scène qui ignorent. Qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir? Pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. Hey, la vie de rêve, la vie de...
Prospection de Damso sur Qui m'a demandé, cet extrait de son dernier album Beya, album sur lequel il a fait un feat d'ailleurs avec l'intelligence artificielle.
Le mag de l'été sur France Inter.
Pour ceux qui nous rejoignent à la table du Mac de l'été, je suis toujours avec vous, Renaud Létang. Vous êtes là pour nous parler de votre petit dernier, votre dernier album, le premier en solo, mais pas trop. Il s'appelle At The Party. Et nous venons d'être rejoints par Nicolas Aubin. Bonsoir Nicolas Aubin.
Bonsoir Constance, bonsoir Renaud.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'IRCAM. Avec votre laboratoire, vous collaborez autant avec des artistes qu'avec des plateformes comme Deezer pour repenser notre rapport au son à l'ère des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Alors, pour un public pas très intelligence artificielle, c'est quoi l'IRCAM et en quoi votre approche de l'IA, elle diffère de celle qui fait très très peur, s'il vous plaît?
Oui. Alors, l'IRCAM, c'est un institut qui a été créé à la fin des années 70 avec le Centre Pompidou. Avec l'objectif de réunir des musiciens et des chercheurs pour créer de nouveaux moyens d'expression sonores, musicaux, artistiques.
Vous dites que l'IA n'est pas un outil posé à la fin, mais pensé avec l'artiste dès le début. Et vous avez, par exemple, travaillé à fabriquer des gants pour Émilie Simon, une artiste d'ailleurs, je crois, avec qui vous avez travaillé, ouais. Renaud Létang. Vous pouvez nous expliquer ce concept de gants et de musique, s'il vous plaît?
Oui, alors ce n'est pas moi personnellement qui ai travaillé avec Émilie Simon, c'est Cyril Brissot, qui était à l'IRCAM à l'époque. Et donc, l'idée de ces gants, c'était d'être capable d'avoir une interface de contrôle pour déclencher des effets sonores sur la voix en particulier, en temps réel, donc dans le temps du concert, pendant la performance. et qui était contrôlable par l'artiste elle-même, Émilie Simon, pour déclencher ses effets.
Nicolas Aubin, vous avez co-signé une tribune pour une IA responsable dans la création musicale. C'est quoi, selon vous, les garde-fous essentiels sur le plan artistique, économique, éthique, mais aussi écologique par rapport à l'IA et la musique ?
Alors, on n'aura pas le temps de d'approfondir tous ces sujets. Mais la ligne directrice de cette tribune, c'était de promouvoir la diversité des pratiques musicales face à l'homogénéisation des musiques qui est renforcée ou qui, comment dire, pour lequel l'intelligence artificielle présente le risque de renforcer des biais d'homogénéisation en rebouclant sur elle-même notamment. Et en parallèle, la diversité des recherches scientifiques et des innovations technologiques pour proposer des alternatives aux technologies dominantes qui sont la génération, par exemple, de musique à partir du texte, pour donner un exemple.
Vous avez aussi, il me semble, reconstitué la voix de Dalida, par exemple, ou d'autres personnalités disparues. J'ai entendu que vous avez travaillé avec l'émission Hôtel du Temps de Thierry Ardisson. J'ai une question un peu éthique à vous poser. Même avec l'accord des ayants droit, ces usages, ils peuvent poser question. Jusqu'où on peut aller avec la voix d'un disparu, selon vous ?
Alors, dans l'état actuel des technologies, on est capable de cloner l'identité vocale d'à peu près n'importe quelle personne. Vous, par exemple, à partir d'enregistrements de 5 secondes. Donc, ça pose un paquet de questions, pas seulement artistiques. Dans les projets que nous avons menés à l'ACAB, le désir de recréer les voix de personnalités historiques disparues à la long cours. La première demande était au début des années 2000 pour jouer la voix de Jean Cocteau, pour laquelle nous n'avons pas pu répondre à l'époque parce que les technologies n'étaient pas suffisamment mûres. Mais la première voix que nous avons créée, c'est celle de Marilyn Monroe avec l'artiste Philippe Parrainaud, qui était en 2012, donc avant l'ère de l'IA telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire des réseaux de neurones.
Renaud Létang, quand on fait de la musique, il y a quand même cette notion qui est centrale, qui est celle d'apprentissage, parfois même d'acharnement pour pratiquer un instrument, par exemple. Je vais faire un parallèle peut-être grossier, mais avec ChatGPT qui menacerait l'apprentissage des élèves dans l'imaginaire collectif. Est-ce que, selon vous, l'intelligence artificielle générative, elle est une menace pour cet apprentissage musical ?
Je dirais que peut-être... C'est très difficile d'avoir du recul par rapport à tout ça. J'ai connu l'arrivée du sampleur, j'ai connu l'arrivée de l'ordinateur, j'ai connu l'arrivée des loops dans les programmes. Et c'est déjà, c'était donc évidemment que ça n'avait pas du tout la même les mêmes capacités qu'aujourd'hui, mais on avait déjà ces réflexions. Je me rappelle que quand le sampleur est arrivé, on disait il y aura plus jamais de batteur, il y aura plus jamais de bassiste, il y aura plus jamais de guitariste. Donc j'ai l'impression que je veux dire, il y a encore pas longtemps, on disait oui, alors il y a un nouveau IA qui fait du mastering, donc il y aura plus, et puis tout arrive mais tout redisparaît. Ça veut dire j'ai pas l'impression que c'est juste un nouvel outil dont il va falloir se servir, et il en restera que les bonnes choses, en fait. Et pour l'instant, on essaye on croit que c'est une fin en soi. Enfin, en tout cas, il y a des personnes qui croient que c'est une fin en soi, mais je ne pense pas que c'est soit une fin en soi. Il faut toujours, et c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure par rapport à la musique générique, et à la musique de librairie, et la musique qui est vraiment, comme un super film abouti et tout ça, il faut quelqu'un derrière qui sait concepter un projet et qui saura diriger, que ça soit des musiciens ou l'IA. Après, ça pose un problème éthique et ça pose un problème de droit intellectuel. Ça, c'est un autre sujet.
Justement, Universal a récemment bloqué l'accès à son catalogue pour l'entraînement des IA. Nicolas Aubin, qu'est-ce que ça traduit ? Est-ce que ça traduit une inquiétude légitime ?
Alors oui, en partie, dans la mesure où ces nouvelles formes d'algorithmes sont essentiellement basées sur l'apprentissage ou des capacités d'apprentissage de la machine à partir de données. Et les données deviennent le nerf de la guerre. Et en particulier, pour tout ce qui est les métiers de la création, Ces données, elles sont protégées par le droit, droit d'auteur, des droits variés, etc. Et donc, il y a des discussions, il y a des tensions qui ont émergé dès 2023 avec les grèves à Hollywood, d'abord des scénaristes, des comédiens, des artistes voix, etc. Donc, qui expriment des préoccupations légitimes sur les bouleversements qui sont en cours et qui doivent faire l'objet probablement d'ajustements ou de discussions pour trouver un point de fonctionnement qui soit bénéficiaire pour toutes les parties et en premier lieu pour les artistes.
Renaud Létang, je vous vois acquiescer.
Ouais, on revient toujours au même problème. Si on utilise ça comme un outil, ça peut être quelque chose de positif. Mmh. Après, si c'est pour
de limitation, mais un outil.
Exactement.
Cette émission touche à sa fin. Mais les vacances c'est bien, mais avec un bon livre c'est beaucoup mieux. Donc je vais vous poser quelques questions. Le bon livre, le bon podcast, votre kit de survie culturelle, Renaud Létang, le morceau que vous écoutez en boucle cet été.
Alors c'est Catriel y Paco Amoroso. C'est un groupe d'Argentins, de deux Argentins. Et j'écoute la version de Tiny Desk et le morceau s'appelle El Único.
Tiny Desk, donc en live, disponible sur YouTube.
C'est Catriel y Paco Amoroso.
Nicolas Aubin, le livre sur l'intelligence artificielle à lire.
Et pour prolonger nos discussions, L'art au temps de l'IA, générer, critiquer, créer. Un livre qui a été publié aux éditions du Centre Pompidou cette année, sous la direction des chercheurs Jean-Louis Giavito et Pierre Saint-Germier de l'IRCAM. Voilà, dans toutes les bonnes librairies.
Renaud Létang, un joker, la meilleure bande originale de film à écouter cet été.
J'en ai écouté une il n'y a pas très longtemps qui m'a encore surpris. J'avais été complètement hypersensible à cette musique quand j'étais petit et ça m'a refait la même chose. C'est Le Bon, la Brute et le Truand de Ennio Morricone.
Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site et l'appli Radio France, évidemment. Merci à tous les deux, Renaud Létang alias Drift. Votre album At The Party est disponible en physique, CD et vinyle et sur les plateformes. Merci Nicolas Aubin, l'IRCAM propose de nombreux événements tout au long de l'année et je signale aussi le replay de votre événement Fast Forward sur le futur du son. Joli mois d'août à tous les deux. C'était le Mac de l'été avec Louis Tempero, Tara Natouri et Ibrahim Damani à la préparation de cette émission, Étienne Bertin à la réalisation, assisté d'Amazir Amaïdine Guest et d'Étienne Kenel à la technique, Mathias Alléon. Après le journal de 19h, vous retrouverez votre rendez-vous avec le téléphone sonne. Ce soir, Charlotte Piré, vous parlez de transmission, comment recueillir la parole de nos proches.
Bonsoir. Non, ce sera demain, on va parler des scopes. Ce soir, on salue le premier anniversaire de la reprise de Duralex en société coopérative. La naissance de la scope du Loiret qui avait permis de sauver 230 emplois et on en profite pour se pencher avec vous sur ce modèle d'entreprise où chaque salarié a une voix égale, perçoit une partie des bénéfices et est sociétaire de son entreprise. Un modèle d'avenir, une formule à développer plus largement, où y a-t-il des bémols à ce tableau presque idyllique? Venez partager votre expérience, posez vos questions à nos invités. Le numéro, vous le connaissez, 01 45 24 7000. On se retrouve juste après le journal.
Merci et désolé Charlotte Piré. Rendez-vous après le journal.